non, mais là, non. Je suis désolé. Vous voyez Blanche-Neige quand elle ouvre ses volets et qu'elle chante avec les oiseaux, un sourire en chantant, mes amis, les animaux, tout ça. Bah, moi, je suis l'exact opposé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai ouvert les yeux ce matin. Boule au ventre, pincement au cœur, mains moites, tremblement, bouffée de chaleur. Je vous raconte pas l'humeur. Et je me connais, ça a duré toute la journée. Je suis grincheux, l'un des sept nains, avec un petit penchant bovin, puisque je me mets à ruminer dès le matin. On a beau me dire, tout va bien, Augustin, je peux pas m'empêcher de rejouer un drame ou une humiliation passée, d'imaginer le retard ou l'absence de mon invité, d'anticiper des dîners ratés, des réveillons manqués, je suis angoissé. Ce sont des nuages de stress, des pics d'anxiété, des nœuds que je suis incapable de démêler, ce sont des sursauts qui me font me saisir du téléphone, vous savez, pour confirmer la pire nouvelle que je pressens. Ce sont des chocs d'électricité qui me font retourner 10 fois chez moi, une fois la porte refermée, pour bien vérifier que j'ai pas laissé une bougie allumée. Migraines, palpitations, nausées, hyperventilation. Disons que je suis pas de super bonne composition, ça arrive, hein, je préfère être transparent. Je dis ça devant mon invité, sans aucune intention de lui mettre une quelconque pression, mais bon.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il anxieux ? Humoriste, après le succès de son seul en scène Dépendance affective, il est de retour sur les planches avec Irréprochable, en tournée dans toute la France, et il explore, avec une autodérision parfois féroce, ses propres blessures, ses chutes, ses angoisses les plus intimes. Bonjour Tristan Lopin.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous angoisse là, comme ça, tout de suite ?
Ce matin, oui. C'est vous qui m'angoissez.
Je le savais. C'est réciproque, hein, j'aurais dû dire.
C'est vrai. Ah ouais, non, j'ai mis vraiment une heure à m'habiller. Alors que je sais que personne va me voir parce qu'on est à la radio. Et en plus, je me suis aperçu en arrivant dans le métro que j'étais habillé en Zara, alors que ce matin, j'ai liké un post de Raphaël Glucksmann sur les Ouïghours. Donc vraiment, c'est un peu l'enfer.
Rien ne va. Rien ne va. Faites attention. Et dans la vie, d'une manière générale, qu'est-ce qui vous angoisse, vous, Tristan?
Le regard des autres. Beaucoup.
Toujours,
ouais,
encore.
Ouais. Toujours, encore, ouais. Et puis, bah, je suis habité par un syndrome de l'imposteur assez terrible qui fait que je me sens, même là, je suis là et je me dis non, mais en fait, c'est pas vrai.
Comment ça manifeste physiquement l'angoisse?
Ah, bah, comme vous l'avez dit, j'ai les mains moites, j'ai surtout une grosse envie de crever, en fait.
Oh non.
C'était.
C'est-à-dire qu'il faut s'y habituer, c'est une compagne, l'anxiété.
Ouais, bah, j'ai commencé à l'apprivoiser, notamment dans le spectacle, hein, parce que je vis avec elle depuis toujours, quotidiennement. Comme j'espère beaucoup d'entre vous, parce que sinon la vie est très injuste. Mais quand même, c'est très dur, quoi. Et le matin, c'est le pire.
Elle ressemble à quoi, cette compagne, cette anxiété?
Cette anxiété.
Physiquement.
Physiquement. Et ben, moi, j'ai toujours cette image de me dire, c'est comme si tous les matins, à chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'apprenais qu'Isabelle Balkany existe. Mais genre, tous les matins, je l'apprends une nouvelle fois, quoi. Et c'est terrible, en fait, de commencer toutes ces journées comme ça.
Oh bah, c'est particulier. Comment vous faites pour la mettre à distance, alors?
Bah, elle m'a bloqué de Twitter, Isabelle Balkany, donc...
Il paraît que vous dansez, Tristan.
Je danse beaucoup, ouais.
Et ça marche.
Et ça marche, bah c'est-à-dire que j'ai plus le choix, en fait, parce qu'à un moment donné où physiquement le truc est tellement étouffant et oppressant que...
Mais quel genre de danse? Sur quoi vous dansez?
Ah bah moi, mon petit secret, c'est quand même c'est Britney, quoi. Puis c'est quand même vachement d'actualité. Donc ouais, Britney, je crois que...
Et vous dansez comment? Vous dansez bien?
Je danse bien, ouais. Augustin. Sachez que j'ai fait 10 ans de danse. Oh. Donc je danse bien.
Mais quel genre de geste, de chorégraphie est-ce que vous proposez?
Ah, bah déjà je suis quand même seul dans mon salon, hein, donc on est quand même sur un truc où il y a très très peu de visu, donc c'est du lâcher prise, donc il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Je pense que ça, il y a un mélange de Diams, Britney Spears et Christina and the Queens, donc c'est vraiment très approximatif, je pense.
Il paraît que vous écoutez aussi des podcasts, Tristan Lopin, de développement personnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
J'écoute les podcasts de ces fameuses nanas qui vous disent de sentir l'air qui respire dans vos poumons, alors que moi c'est vraiment la sensation que je trouve la plus angoissante, de me sentir vivant, sentir que j'ai des organes, que j'ai, enfin, moi le moment de la journée où je respire le mieux, c'est quand je fume une cigarette. Donc c'est vraiment.
mais est-ce que ça marche déjà? Mais surtout, ça ressemble à quoi, un podcast de développement personnel? Parce que moi, j'en ai jamais écouté. Je crois que France Inter s'y est pas encore mis, ce qui est
c'est
assez
vrai.
Regrettable. Même si Boomerang emprunte, m'a-t-on dit, à la tradition du développement
ouais,
personnel.
Ouais, c'est vrai.
C'est quoi exactement?
Bah c'est quoi? C'est apprendre à respirer, à sentir son souffle, à être dans une bonne position, à accepter le silence qui sommeille en nous. Et c'est terrible, en vrai. Et puis, elles ont souvent des voix très, très angoissantes. Moi, ouais, c'est très anxiogène.
Et le rire, quel remède est-ce que c'est contre l'anxiété?
Bah, le rire, c'est un moyen de désamorcer tout un tas d'angoisses qui me sont propres et qui sont propres à plein de gens. Enfin...
À quel moment vous l'avez compris, ça, dans votre vie?
je l'ai compris à 13 ans après une colonie de vacances que j'avais très très mal vécu. J'ai eu un espèce de rush de sucre en bouffant une tablette de chocolat aux noisettes.
Oui.
Et d'un coup, je me suis mis à balancer des vannes sur les gens que j'avais observés depuis 10 jours et à observer tous leurs travers, etc., qui n'avaient pas été très sympas avec moi. Et d'un coup, je les ai mis à sniper les uns après les autres.
Mais c'est ce que j'allais vous demander. C'est une façon de se défendre, c'est une façon de se protéger aussi.
Ah, bah, ouais. C'est hyper cathartique et c'est vraiment une manière de se protéger des autres, ouais, bien sûr.
Quand il arrive, effectivement, qu'on vous insulte, qu'on s'en prenne à vous verbalement dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ça reste la meilleure arme.
Ça reste la meilleure arme, même si au premier abord, on a juste envie de péter un truc. Mais ouais, je pense que. En tout cas, c'est l'arme la plus intelligente.
C'est ce qui s'est passé quand vous êtes apparu le visage complètement tuméfié après le confinement sur les réseaux sociaux.
Je me suis pris un arbre.
Non, mais. Mais vous voyez que cette phrase, je me suis pris un arbre, c'est aussi la phrase qu'on dit dans ce cas.
Ben, oui, c'est la phrase qu'on dit, mais. Ouais, mais en même temps, c'était tellement improbable. C'est que moi, même à ce moment-là, je me suis dit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé parce que quand vous vous êtes pris un arbre, Tristan?
Mais les gens, même la presse People a commencé à titrer que je m'étais fait agresser par des homophobes. Et moi, en fait, d'un coup, j'y avais pas pensé. J'étais là, mais en fait, j'aurais préféré. Parce que, j'aurais préféré, mais dans l'absolu, ça aurait vendu des tickets. On aurait été invité à C'est à vous. On aurait fait des trucs chouettes. Là, on fait quoi avec un mec qui s'est pris un arbre? On l'invite à Silence, ça pousse, quoi.
Mais
c'est quand même vachement moins intéressant.
Mais quel arbre est-ce que c'était?
J'ai déraillé en vélo et.
Essayez au moins de le personnaliser, d'en faire une histoire.
C'était Bouba Magenta. Donc, Anne Hidalgo m'a envoyé un message après pour me demander si j'allais bien, parce que je pense qu'elle s'est dit je vais la pourrir sur les réseaux.
Ah bah ça, ouais, ça cache Paris.
Et voilà, et en fait, j'ai déraillé, je me suis pris un arme et j'ai eu 5 fractures du visage. Enfin, j'étais en kit, quoi.
Et oui, il paraît que vous avez pleuré du sang.
J'ai pleuré du sang, ce qui m'était pas arrivé depuis.
Mais surtout, est-ce que c'est physiologiquement possible? Moi, je l'ignorais.
J'ai pleuré du sang aux urgences en arrivant. J'ai voulu moucher parce que j'avais le pif éclaté. Et l'interne qui était là, qui clairement était une débutante, me file un mouchoir. Et oui. En fait, c'est le truc à ne jamais faire. Du coup, au lieu d'évacuer le sang par le nez, tout le sang est remonté dans ma poche intérieure d'œil, quoi.
Et vous savez qu'il faut dormir du bon côté, sinon ça se transvase.
Ah ouais?
Ah bah, on est les deux après.
Bon, bah,
ça
c'est
arrivé une fois. Je m'étais pris une barre au cheval. Quel enseignement est-ce que vous avez tiré de cet accident, Tristan Lopin? Parce que autant que ça ait servi à quelque chose, quand même.
J'ai eu 10 jours de plus à rester chez moi, alors que j'avais déjà passé 2 mois en confinement à faire le tri dans ma tête. Donc j'ai juste fait un peu plus de tri dans ma tête, et en fait c'était vraiment le bordel, quoi. J'étais en train d'écrire ce spectacle, j'allais commencer à le jouer, et en fait je me suis dit, y a encore du taf, quoi.
Parce que moi, vous me connaissez, ça m'a inspiré une théorie.
C'est vrai.
Et une question. Dans quelle mesure être humoriste, c'est aussi peut-être ça, apprendre à chuter? Apprendre à tomber, apprendre à se prendre un arbre dans la gueule.
Ah bah moi c'est l'histoire de ma vie de toute façon. Il n'y a que des chutes, qu'elles soient amoureuses ou dans ma, enfin ça n'était qu'une succession de chutes.
Donc, ou dans votre écriture.
Et dans mon écriture, ouais, bien sûr.
Celle qui chute dans cette émission, vous la connaissez, Tristan, vous la connaissez toutes et tous. C'est la culture et son actualité. Peau de banane et patins à glace. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 17 décembre? La Philharmonie jusqu'au bout, art de rue. L'institution parisienne inaugure aujourd'hui Hip-Hop 360, une expo titanesque pour retracer 40 ans d'un mouvement underground devenu culture de masse, musique, danse, mode, art pictural. L'événement explore toutes les facettes du hip-hop au sein d'un parcours interactif et immersif qui met à l'honneur les pionniers et les piliers du game. Kerry James, MC Solar, Youssoupha, Cut Killer, Booba, John Wan ou encore le regretté DJ Mehdi, Uzu.
Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh my God, thank you.
Elle est notre hyper-héroïne. La grande actrice française recevra un ours d'or d'honneur lors de la prochaine édition de la Berlinale en février prochain. Une récompense pour saluer l'ensemble d'une carrière étourdissante déployée sur plus de 50 ans et 150 performances chez Chabrol. Anneke, Jaco, Ozon notamment, à l'affiche du prochain Laurent Larivière à propos de Johan, projeté le 15 février à Berlin. Isabelle Huppert verra le festival diffuser une sélection de certains de ses films les plus emblématiques. C'est très très chic.
C'est ça qui est bien dans le fait d'écrire aussi. Vous avez votre vie, qu'est-ce qu'elle aime? Vous avez une autre vie, vos petits personnages que vous faites vivre. Enfin, moi j'adore, quoi, en fait.
On avait tout imaginé, tout entendu, qu'il ne donnerait d'interview qu'à Picsou Mag, que le roman était une grande histoire d'amour, que le livre peut-être ne verrait jamais le jour. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore lu, mais on vient de le recevoir. Le prochain roman de Michel Houellebecq sortira le 7 janvier prochain, sera long de 736 pages, coûtera 26 euros et sera titré « Anéantir ». Et bonne rentrée, bonne année, bonne santé. « Et enfin Noël, avant Noël, 12 albums live des Pink Floyd viennent d'être mis en ligne par surprise sur les plateformes de streaming captées à Amsterdam, Rome ou Berlin. Entre 70 et 72, les concerts de la bande de David Gilmour donnent à entendre des versions inédites de certaines chansons comme Echoes ou One of These Days et proposent même une performance quasi complète de Dark Side of the Moon jouée sur scène à Tokyo un an avant la sortie officielle de l'album culte en 1973, Rock On. Et l'humoriste Tristan Lopin, invité de Boomerang ce matin pour son spectacle Irréprochable, un spectacle né du premier confinement, vous le dites, en quoi cette période a été favorable à l'écriture? Parce que j'ai l'impression que la solitude, ça compte pour vous.
La solitude, ça compte pour moi et ça a été favorable parce que je sortais d'une espèce de grosse déprime de l'enfer.
Comment après, ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, j'ai eu deux ruptures amoureuses en l'espace de 4 mois, juste avant le confinement. Et moi, faut savoir que vraiment, j'avais passé toute ma vie en couple et là, c'était vraiment le moment où fallait pas être célibataire. Ah, ouais. Et en fait, ça m'est tombé sur la gueule. Et en fait, vraiment, ça m'a mis dans une espèce de d'humeur très noire. Et ça allait mieux juste avant le confinement. Ils nous ont dit qu'on allait être enfermés. Donc j'étais, en fait, c'est une blague, il y a un truc. Et du coup, bah, j'étais avec tout seul pendant 2 mois, donc dans mon 27 mètres carrés à Paris. Donc j'ai dit, bah, j'ai commencé à écrire. Mon producteur m'a appelé, il m'a dit, t'as pas un truc? J'ai dit, j'ai un truc. Par contre, ça va être vachement différent du précédent.
Avec cette voix-là, vous l'avez dit ou pas?
Ouais, je crois que je lui ai dit avec cette voix-là.
Un peu pincé, un peu pain bêche.
Bah, un peu pain bêche. Ouais, mais 2 mois tout seul, vraiment, je pouvais être pain bêche.
Mais c'est intéressant même. Donc comment on sait, Tristan Lopin, que c'est fini avec quelqu'un, qu'il faut que ça cesse, qu'une page se tourne? Je crois que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent la question sans savoir vraiment comment y répondre.
Bah déjà quand il dit que c'est fini,
donc ça c'est vrai, bon, ça c'est assez évident. Ouais.
Non, il faut. Bah moi en tout cas, celui que qui m'avait quitté juste avant le confinement, ça avait duré 2 mois et je pense que c'était tellement une source de bonheur et de douleur intense d'être avec lui que je savais très bien que ça pouvait pas fonctionner. Quoi, c'était. En fait, il m'a mis vraiment tellement dans le sous-sol de... Non mais vraiment, j'étais tellement mal. J'ai passé 2 mois après...
Vous me faites rire.
Ouais, alors que vraiment, c'est horrible. Mais j'étais tellement mal que d'un coup, j'ai dit, bon... Bah en fait, il faut accepter que si mec me met aussi mal, c'est que c'est pas le bon. Quoi.
Alors c'est intéressant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rester avec quelqu'un? Non, parce que vous en aviez vraiment envie, mais parce que vous aviez envie que cette personne vous apprécie, tout simplement. Parce que c'est notre lot à tous, hein.
Ouais, parce qu'elle avait envie que... Non, je pense pas que je sois resté avec quelqu'un pour ça, non.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de cesser de vous mettre la pression en essayant d'être irréprochable? Parce que c'est ça que vous racontez, en fait.
J'ai arrêté de me mettre la pression. Je pense que vraiment, pendant ce confinement-là, parce que je me suis dit, mais j'ai passé ma vie à essayer d'arrondir les angles, à être le petit garçon avec des kickers aux pieds, pantalon en velours côtelé, enfin, col roulé, tinasse bond, des mèches sur le côté.
Et là, vous avez sorti des baguilles, quoi.
Et, non, alors peut-être pas, on n'est pas sur des baguilles, mais j'ai commencé à mettre des baskets, ce qui m'était interdit par mes parents quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, en fait, je suis pas irréprochable et j'ai le droit de pas l'être, en fait.
Et sur scène, est-ce que vous essayez pas d'être irréprochable quand même, Tristan Lopin?
Sur celui-là, franchement, je dis des trucs, je crois pas que je le sois, non. Ou alors, vraiment, vous avez une notion très très aléatoire.
Aucune morale dans Boomerang. Quand est-ce que vous vous êtes dit que votre place était sur scène et pas autre part?
Quand je suis monté sur scène la première fois jouer un texte que j'avais écrit, alors que vraiment j'y allais vraiment par hasard, j'avais écrit ce truc-là, et d'un coup j'étais animé par une peur terrible, et en même temps c'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment à ma place, ouais. Et je me suis dit ça va te coûter, mais je pense que c'est là.
Parce que petit, de quoi rêviez-vous? Qu'est-ce que vous rêviez d'être à l'époque?
Je rêvais d'être réalisateur. Je voulais, moi j'étais, bah on en a parlé tout à l'heure, mais Isabelle Huppert, vous en avez parlé, c'était. Enfin, c'est une icône pour moi et j'ai toujours rêvé de faire des films, de raconter des histoires, certainement parce que moi j'avais du mal à parler de la mienne, et de faire des films tristes parce que mes parents m'emmenaient voir des films iraniens ou coréens, donc vraiment on est très très France Inter dans la famille. Et du coup j'avais envie de raconter des histoires et c'est ce que je fais maintenant sur scène. Quoi.
Je vous parle de rêve parce qu'il se trouve que dans le spectacle vous avez un discours sur le rêve, vous dites que plus on vous fait rêver, plus la chute risque d'être rude, et on parle pas de l'accident de vélo là. Qu'est-ce que vous voulez dire? À quoi vous pensez, Tristan Lopin?
Bah déjà je pense à Loana. Qu'on avait beaucoup rêvé et qui finalement la chute a été un peu compliquée.
Tragique.
C'est tragique et non, oui, c'est parce que je parle de ma nièce et je dis, je pense que c'est pas la peine de leur raconter des histoires parce qu'au final, on finit tous par apprendre la vérité et que quand on l'apprend, putain, la chute, elle est compliquée, quoi.
Parce que avec les années, de quelles illusions avez-vous fini par vous défaire?
Ah bah déjà le concept, non mais déjà je veux dire le truc du prince charmant
de non, c'est pas sur le sujet Tristan.
Non mais c'est vrai l'histoire,
c'est un mythe, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas, mais mes parents sont toujours ensemble et ils s'aiment en plus. Donc c'est vraiment terrible. C'est-à-dire que avec tous les divorces qu'il y a, j'ai pas eu de chance parce que
on devrait leur mettre une amende.
Mais moi je leur dis à chaque fois, dites-moi au moins que vous avez pensé un jour à vous quitter, à vous tromper, j'en sais rien, mais dites-moi qu'il y a eu une faille. Parce que moi là tous les mecs avec lesquels je suis là, mais en fait tu feras jamais le poids en fait, mec.
Vous les faites marrer ou pas?
Oui, si, si, quand même.
Aujourd'hui, vous rêvez de quoi, Tristan Lopin?
Je rêve de sérénité. Waouh, c'est super profond.
Et c'est surtout drôle quand ça sort de votre bouche. Et Britney, est-ce qu'elle vous fait encore rêver?
Elle me fait encore rêver, ouais. Bah là, j'espère qu'elle fait rêver des gens.
Mais oui, parce que moi, j'étais déçu. Elle est pas dans votre spectacle, Tristan.
Non, elle est pas dans votre spectacle.
Bah ouais, mais bon, il y a un moment donné, après les nombreux documentaires qui ont retracé son histoire avec l'actualité, je pense qu'elle méritait mieux. Et je comptais sur vous, je dois dire.
Mais elle était dans le précédent, déjà.
Bah ouais, mais bon.
Ouais, mais j'ai grandi, en fait, Augustin. Il faut tourner la page, je crois. Elle est toujours dans mon cœur.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Elle m'a apporté, c'était une manière de me libérer, moi, de mon corps, de la voir, de voir cette nana danser, d'assumer une sexualité, une sensualité de manière aussi évidente, provocante. Et moi, quand je me cherchais sexuellement, que j'osais pas non plus dire que je crois que je préférais les garçons, etc., j'ai eu... Enfin, ouais, je l'ai vu, je me suis dit, ah là là, j'ai juste envie d'être aussi libre, quoi. Alors, elle, manifestement, elle l'a pas été très longtemps, mais oui, ça a été une source d'inspiration,
là. Ouais, écoute là, ouais, on se fait un petit kiff.
Mais non, ah, bah, si, Britney sur France Inter.
Bah, attends, moi, dès que je peux, bah, allez, on l'écoute. Chef d'œuvre de production qui est toxique sur l'album In The Zone en 2003, France Inter, Tristan Lopin, Boomerang. Baby, can't you see, I'm calling.
Mm-hmm.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Il n'est pas toxique, hein, il est comestible, gourmand, l'œil Pepsi Cola, le nez Shirley Temple, la barbe, homme des bois face au Woodkid, gourou, ou capitaine Haddock avec son... Non, oui, c'est une casquette canadienne en fait.
C'est un petit peu canadien, ouais. Mais... Vous avez l'œil.
Mais oui, c'est vert foncé, c'est canadien, il y a une feuille d'érable dessus ou une feuille de chêne, je sais pas. L'humoriste Tristan Lopin, invité de Boomerang, pour son spectacle irréprochable, je vais vous dire, ce qui m'a frappé, c'est quand même la manière dont vous communiquez sans cesse avec le public. Le public, quel appui est-ce que c'est pour vous ?
Bah déjà c'est une source d'improvisation puisque tous les jours ça change et que ça me permet du coup d'offrir aux spectateurs à chaque fois quelque chose de différent. Il y a toujours des parties du spectacle qui sont différentes.
Mais prendre à partie quelqu'un dans le public, ce qui est quand même, on va pas se mentir ici, hein, dans Boomerang, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un quand il assiste à un spectacle d'humour, qu'est-ce que ça produit en fait ? Qu'est-ce que ça permet ?
Moi ?
Non, d'inviter comme ça des gens du public dans le spectacle, de les faire rentrer dans le spectacle.
Bah déjà ça permet d'avoir un bouquet émissaire, et pour les gens c'est quand même vachement agréable je crois.
Oui parce que c'est ça en fait, on est ravis que ce soit pas nous.
Ouais, et puis ça permet, moi ça me permet de me moquer de moi, de montrer aux gens que en fait on est tous pareils parce que du coup je prends la personne à partie et du coup tout le monde est rassuré en fait. Et vu que je le fais quand même avec férocité mais de la bienveillance aussi, oui, la personne le prend jamais mal en fait.
Ça peut provoquer du malaise, Tristan Lopin.
Ça peut, je pense pas dans mon cas parce que je crois que j'essaie toujours de mettre les gens d'être bienveillant quoi. Mais et ça peut le faire, il y a des gens qui oui.
Mais pour autant, en quoi la scène c'est pour vous un endroit où toute gêne, toute pudeur disparaissent justement?
Bah parce que moi j'en ai eu beaucoup trop pendant trop longtemps et que du coup aujourd'hui c'est un espace de liberté totale pour moi quoi.
Quand vous parliez justement de cette première fois où vous êtes monté sur scène, ouais. Tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé, la gêne s'est dissipée, le malaise s'est dissipé, soudain vous étiez autorisé à parler, à dire.
Ouais, je crois que c'est la fois où je me suis autorisé à parler quoi, et ça m'avait tellement manqué que d'un coup je me suis dit faut plus lâcher ce truc là quoi.
Et on peut parler de tout.
Et on peut parler, bah, je crois que vous avez vu le spectacle, on peut parler de tout.
Oui.
On peut rire de tout.
Quand vous évoquez, par exemple, une première fois, qui n'en est pas une.
C'est une première fois ratée. C'est un viol que j'ai subi, ouais, quand j'avais 13 ans. Et j'en parle parce que c'est un sujet, bon, d'actualité. C'est un sujet qui me hante, évidemment, depuis toujours. Et je me suis dit, c'est le moment, c'était la période quand j'ai écrit ce spectacle pour mettre tout ça à plat, et je me suis dit que ça allait parler aux gens et que ça servait le propos que j'avais envie de servir.
Mais comment on fait pour faire rire avec ça, Tristan Lopin? D'autant que c'est pas quelque chose que vous gardez pour la fin, ça arrive très vite dans le spectacle.
Ça arrive très vite dans le spectacle. Comment on fait rire de ça? On fait rire de ça déjà parce que c'est une histoire qui m'appartient, donc c'est un regard que je porte sur quelque chose qui m'est arrivé. Donc les gens peuvent en rire parce que c'est pas comme si je parlais de tous les gens qui ont été agressés, auquel cas on pourrait me dire que je porte un jugement sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Là, en l'occurrence, c'est mon vécu. Et je prends du recul très pragmatique et assez dur, c'est vrai, sur les faits, mais j'ai pris du recul, j'ai digéré ce truc-là, et donc aujourd'hui, je dis que moi, je m'autorise le droit d'en rire.
Et qu'est-ce que vous ressentez dans la salle dès l'instant où vous commencez à évoquer ce sujet ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je sens que les gens commencent à se dire « Merde, qu'est-ce qu'on fout là ?»
Oui.
Non, surtout qu'ils se disent « Est-ce que c'est vrai ?» Que rapidement, ils comprennent que ça l'est. Et en même temps, j'ai l'impression que ça libère quelque chose de... voilà, un rire grinçant, jaune, mais qui fait du bien à tout le monde, en fait. Parce que c'est des sujets, c'est des douleurs qui appartiennent à tellement de gens. Et il y a tellement une espèce de... Enfin, voilà, on libère tellement pas la parole là-dessus que d'un coup, d'en rire de manière aussi frontale et aussi dure, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens, ouais.
Et à vous, Tristan Lopin, est-ce que ça change quelque chose de le dire sur scène ?
Ça me fait quelque chose de le dire sur scène, ça brasse beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, et ça me fait très plaisir d'en parler pour la première fois publiquement chez vous aujourd'hui. Ouais, c'est important, c'est quelque chose que j'ai attendu pendant très longtemps, et puis à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, quoi, il faut que... J'avais besoin, quoi, ouais.
Quand est-ce que vous avez décidé d'en parler, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, je crois que c'était justement pendant le confinement, après ces deux histoires d'amour où j'avais eu l'impression de donner beaucoup, beaucoup, de m'occuper des autres énormément, de ces histoires d'amour, de ces garçons qui allaient pas très bien, et d'un coup je me suis dit mais en fait t'es quand même passé beaucoup à côté de ce qui va pas chez toi. Et ben, cette agression, c'est forcément quelque chose qui m'a conditionné dans mon rapport aux hommes, dans mon rapport aux autres, et je me suis dit si tu veux avancer, il faut que tu fasses face, quoi. Et ça, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, donc je l'avais fait, mais j'avais jamais mis sur papier, j'avais jamais pris du recul là-dessus. Et moi, pour arriver à passer vraiment à autre chose, je crois qu'il faut que je putain, il faut que je puisse en rire, quoi.
Avec le recul, justement, est-ce que vous vous dites que vous êtes humoriste, vous faites ce métier aussi pour sublimer quelque chose?
Ouais. Et je fais ce métier surtout pour apporter des réponses et apporter un regard sur des sujets qui sont pas forcément évidents, mais de pouvoir faire prendre du recul aux gens, quoi. Enfin, parler des choses juste du quotidien, il y a des gens qui le font très bien, moi ça m'intéresse pas, en fait. J'ai envie d'essayer de faire avancer les mentalités, les réflexions des uns des autres.
Quels sont les retours qu'on vous fait, justement, quand on voit ce spectacle?
Eh ben, déjà que c'est très différent du précédent. Ce que je voulais, moi, je déteste revoir un humoriste pour la deuxième fois que j'aime bien et me dire que c'est un peu le prolongement du premier. Là, on est quelque chose de très différent, et j'ai l'impression que les gens sont touchés parce que c'est très honnête, je crois. Ça a été écrit avec beaucoup d'humour, parce que moi je le trouve très très drôle, mais dans une forme de douleur.
C'est très très drôle, c'est très très drôle.
Ça a été douloureux aussi.
Mais sur ce sujet précisément, on vous en parle tout de suite, on vous écrit, ouais, ça libère
une
parole.
C'est le thème le plus fort du spectacle, et bon, plus fort que ça, franchement, je me suis dit ça va être compliqué.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a la mort, quoi.
Il y a la mort, ouais, dont je parle un petit peu aussi. Et non, les gens sont touchés, les gens souvent me remercient, ouais, quelque part d'en parler. Les gens qui ont été victimes et qui ont du mal à aborder ce sujet-là me disent merci, ouais, et merci à eux d'accepter que j'en parle, quoi.
Mais c'est une vraie question que je me pose. Dans quelle mesure, quand on fait votre métier, on fait un métier aussi pour libérer une parole, quelle qu'elle soit en réalité, pour qu'en fait le spectacle se poursuive après la représentation, qu'on continue de rire, qu'on continue de parler, qu'on engage une parole.
Ouais, et puis moi je fais ça aussi pour que les gens sortent de mon spectacle, pas en se disant juste « Ah, c'était drôle », mais en pouvant, en ayant l'opportunité d'ouvrir la conversation, d'ouvrir le dialogue. Moi je veux dire, j'ai fait ce spectacle-là, j'ai voulu faire du cinéma parce que pendant trop longtemps j'ai eu le sentiment que je n'avais pas la parole, que je la prenais pas, qu'on me la donnait pas, et parce que je me suis dit c'est le seul moyen, si je faisais des films, de pouvoir raconter mon histoire, de pouvoir raconter qui je suis, de pouvoir donner l'opportunité aux gens de s'intéresser à d'autres problèmes qu'aux leurs. En fait, il y a plein de gens, on passe à côté d'eux parce que on est tellement centré sur nos petites histoires que d'un coup on passe à côté des gens. Moi ça m'est arrivé, ça a été une douleur profonde, et je passe certainement à côté de plein d'autres gens dans ma vie, et je me suis juste dit, si ça peut dire aux gens, en fait, faites gaffe, parce que là, vous me voyez quelqu'un de très solaire, de très amusant, et en fait, au fond, tout le monde a des failles plus ou moins grosses, et faites attention aux autres.
Il y a eu un déficit de représentation quand vous étiez petit, quand vous aviez grandi, de voir à la télévision, sur les écrans, au cinéma, mais aussi peut-être dans d'autres arts, des gens qui vous ressemblaient.
Bah, bien sûr, déjà dans ma sexualité, j'avais personne à qui m'identifier. Et en toi, la liberté de la parole sur ces sujets aussi compliqués, il y en avait pas. Enfin non, aujourd'hui il y en a, tant mieux. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire partie de ces gens qui ouvrent cette parole-là, bien sûr.
Vous dites parfois que vous êtes arrivé un peu tard, du coup.
Je me dis que je serais arrivé il y a 2 ans au moment du hashtag MeToo, on m'aurait proposé un film avec Polanski. Et là, ça aurait été chouette. Là, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, il y a jamais prescription.
Vous êtes,
hein,
terrible. Mais... Ah, on est mal, Tristan Lopin, vous savez pourquoi?
Pourquoi?
Parce que c'est le moment de la carte blanche.
Alors ensemble, Augustin, nous aurons évoqué mon anxiété, mon agression sexuelle, oui. Et certainement, du moins je l'espère, le fait que j'ai demandé un appareil à raclette 6 personnes pour Noël cette année.
Ah non, on n'en a pas parlé, tiens.
Non, mais j'ose même pas vous regarder dans les yeux, tant je crains de lire dans votre regard une forme de compassion. Un appareil à raclette quand on vit seul à 34 ans, mais quelle tristesse, pensez-vous sûrement. Et pourtant non, Augustin, détrompez-vous. Des années que je n'ose passer le pas, mais cette fois-ci, comme Britney, j'ai décidé de me libérer. Je m'accorde donc le droit de manger de la raclette toute l'année, chez moi, au lit, seul ou entre amis, mais aussi de jouer en spectacle dans lequel je parle de choses légères, plus engagées, mais aussi de celles qui me sont arrivées dans le passé et dont je ne pensais jamais m'extirper. Je profite donc solennellement de cette carte blanche que vous m'offrez pour dire à toutes ces femmes, ces hommes qui ont subi et qui aujourd'hui parlent, libèrent, informe, soulage, dénonce, merci. Merci pour ce courage, parce qu'il en faut quand on sait toute la détermination nécessaire pour aller au bout de ce genre d'accusation. Aussi, j'aimerais remercier tous ces gens qui remettent en cause la parole des victimes, la véracité de leur histoire, qui disent qu'on aurait pu dire non, sans imaginer que dans certains cas, on ne prend conscience de son statut de victime que bien des années plus tard, trop tard souvent quand il y a prescription. Ou encore ceux qui pensent que c'est trop facile d'inventer, d'accuser et de détruire la vie des gens pour de l'argent ou juste pour se faire un peu remarquer. Rassurez-vous, on ne raquette personne. Moi, il n'a écopé que de 2 ans avec sursis et d'une amende de 5 000 euros grâce auquel j'ai pu m'offrir un Dyson. Petit chanceux que je suis.
Quant aux faux témoignages, ils existent, c'est vrai. Comme il y a certainement des gens qui votent Zemmour, sont ultra-féministes et passent leur journée à Calais à porter leur aide aux migrants. C'est rare quand même. Merci en tout cas à vous de nous rappeler combien il est important d'éduquer les gens sur le sujet. Et venez à la maison pour faire une petite raclette que je vous raconte toutes les étapes à traverser avant qu'on prenne au sérieux quelqu'un qui essaie de se libérer de la culpabilité d'avoir été abusé. Vous allez voir, ça donne vachement moins envie juste de se faire remarquer.
Merci Tristan Lopin pour ce texte. Merci aussi d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre spectacle Irréprochable est en tournée dans toute la France jusqu'en décembre 2022. Vous serez notamment à la Cigale les 29, 30 et 31 décembre. Il reste des places pour cette date. Et puis en avril et en mars, en 2022. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Humbert et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, c'est l'heure de la médiatrice de nos antennes, juste après ça.
Une flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle. Virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle. Virus se déplie, se réveille. Virus X. Virus X.
Virus X.